Le gouvernement israélien multiplie les déclarations provocatrices ou annonciatrices. On va voir ça avec notre invité. Bonjour Hasni Abidi.
Bonjour.
Directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Un ministre israélien affirmait encore il y a quelques minutes que Gaza serait complètement détruite et qu'après la guerre, les Palestiniens partiront en grand nombre à l'étranger. C'est déjà plus ou moins ce que prévoyait le plan dévoilé dimanche, une conquête du territoire palestinien. Le but est-il toujours l'éradication du Hamas ?
Le gouvernement de Netanyahou est arrivé à une conclusion selon laquelle les 15 mois des bombardements n'ont pas réalisé les objectifs de Benjamin Netanyahou, qui sont premièrement le retour des otages, tous les otages en tout cas, et le deuxième objectif, c'est l'anéantissement total du Hamas, de sa capacité militaire et de sa capacité aussi administrative. Donc ce que vient de dire M. Smotrich, ministre des Finances, est tout à fait l'objectif. Et ce qui est intéressant aussi dans sa déclaration, c'est que finalement, c'est cette voix-là la plus radicale dans le cabinet israélien qui a eu raison de toutes les autres voix. Finalement, Benjamin Netanyahou a suivi cette voie radicale, celle de la reprise de la guerre et bien sûr l'occupation. Ce qui est nouveau, c'est un tournant dans la guerre depuis 2005. Là, aujourd'hui, on assiste à un retour de l'occupation de territoires palestiniens.
Justement, c'est une voix qui vient de la droite la plus extrême en Israël. C'est elle qui a poussé pour que soit mise en place notamment ce projet qui a été dévoilé dimanche. Et pourtant, malgré des déclarations, aucune mesure n'a été prise par la communauté internationale. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas davantage de réactions à l'étranger ?
Et d'abord, pourquoi cette voix a eu raison ? Parce que c'est le prix pour Benjamin Netanyahou de rester au pouvoir. C'est en quelque sorte le prix pour sa survie. À la fois politique, mais aussi sa survie face à plusieurs procès contre lui. Et donc la continuation de la guerre, c'est la négation de la politique. Il n'existe plus de dynamique de politique, soit à l'intérieur d'Israël ou même en termes de négociations. Et parce que Benjamin Netanyahu aussi est renforcé par cette option radicale, parce qu'il voit qu'en face de lui, il n'y a plus de contre-pouvoir. Il n'existe pas de contre-pouvoir à l'intérieur, sauf bien sûr les femmes et des otages, mais qui ne sont pas en mesure d'influencer sur la décision de Benjamin Netanyahou.
Qui ont fait savoir pourtant que selon elle, ce plan signifiait, ça revenait à sacrifier les otages qui sont encore détenus par le Hamas.
Oui, c'est un constat qui est tout à fait juste, parce que les familles des otages savent que les négociations, plutôt avec les deux intermédiaires, les Qataris et les Égyptiens, ont permis le retour d'une partie des otages et pas la reprise des hostilités. C'est la trêve humanitaire, la trêve provisoire et la négociation qui a permis la libération de ces otages. Le deuxième contre-pouvoir, donc les familles des otages, oui, ils ont une influence, mais elle est somme toute symbolique. Et le deuxième, c'est bien sûr, vous avez aujourd'hui depuis le retour de Donald Trump, il n'existe plus de contre-pouvoir à l'international capable donc d'influencer sur les décisions de Benjamin Netanyahou, de dire tout simplement à Benjamin Netanyahou que la reprise de la guerre ou la reconquête de Gaza n'est pas du tout acceptable. Il y a les voix de la France, de l'Irlande, quelques voix européennes, mais ces voix ne sont pas du tout écoutées par Netanyahou. C'est vrai qu'ils sont
inaudibles. Il n'y a que les États-Unis qui peuvent peser ?
Ah oui, dans ce dossier, les pays européens, ils peuvent, mais ils ne veulent pas utiliser. Il existe des leviers très importants. Il faut rappeler que l'Europe est un partenaire commercial de premier choix pour Israël. L'Union européenne et Israël, il y a un accord d'association et qui peut très bien faire mal à l'économie israélienne. Il y a des aides européennes qui viennent et qui financent cet effort de guerre. Mais l'Union européenne étant divisée, mais n'a pas la volonté d'utiliser ces leviers qui est très important, il reste les États-Unis qui, tout de même, un allié important inconditionnel. Avec Donald Trump, il est illusoire de croire que Donald Trump va exercer la moindre pression de Benjamin Netanyahou. Il vient de déclarer d'ailleurs que finalement, que donc son envoyé spécial Witkoff, que Israël est souverain dans ses décisions.
Dans ce contexte, le Hamas a fait savoir qu'il n'y avait plus aucun intérêt à négocier avec Israël une hypothétique trêve. Est-ce que ça vous paraît logique et est-ce qu'effectivement il n'y a plus aucun espoir aujourd'hui de voir le Hamas discuter avec le gouvernement israélien ?
Il y a deux espoirs. Le premier, que la visite de Donald Trump prévue dans la région, notamment en Arabie Saoudite et au Qatar, elle pourrait finalement déboucher sur un accord à minima. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'il y a toujours des négociations au Qatar, c'est-à-dire les émissaires, les deux envoyés spéciaux, les deux médiateurs, l'Égypte et le Qatar, à travers leurs services de renseignement, sont toujours mobilisés. Et l'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, est toujours en charge de ces négociations. Et il est en contact, comme il le dit, quotidiennement avec l'Égypte et avec le Qatar. Mais c'est pas seulement le contact régulier, il faut absolument dire haut et fort qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est intenable sur le plan humanitaire. Il y a une catastrophe humanitaire, il y a une famine, il y a une guerre de la faim qui est exercée par la force équipante qui, par le droit international, a l'obligation de préserver des vies humaines. C'est cette situation qui est, à mon avis, échappée à la communauté internationale, qui a préféré la stratégie de l'évitement que vraiment de défendre le droit international.
Alors, il y a eu aussi des frappes au Yémen. Il y en aura probablement d'autres, puisqu'Israël appelle à l'instant les civils à évacuer les environs de l'aéroport de Sanaa. Il y a des bombardements toujours au Liban, dans le sud et à Beyrouth. Et puis, la semaine dernière, Israël a visé aussi la Syrie en se présentant comme le protecteur de la minorité druze. Comment est-ce que vous expliquez cette multiplication des guerres israéliennes ?
Avant, on parlait de l'unité des francs, qui était le slogan plutôt du mouvement dit de la résistance, c'est-à-dire soutenir le Hamas avec des frappes venant du sud Liban, mais aussi du Yémen. C'est le gouvernement de M. Benjamin Netanyahu qui reprend ce slogan avec plusieurs francs ouverts en même temps. Sur le plan syrien, vous l'avez dit, le Liban aussi, qui continue d'ailleurs malgré un accord et malgré la présence de la France dans ce comité chargé de suivi de cessez-le-feu et maintenant le Yémen. Parce que le gouvernement de M. Netanyahu se trouve dans une position triomphante depuis l'écrasement des capacités militaires de Hezbollah et la mort de Nasrallah, la mort aussi de plusieurs dirigeants du Hamas. Évidemment, l'affaiblissement de la force extérieure des Iraniens, Benjamin Netanyahu pense qu'il est dans une fenêtre stratégique qui va lui permettre de remodeler le Moyen-Orient à sa guise. Et c'est ça qui l'intéresse dans cette région.
Merci beaucoup Hassni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Je donne aussi le titre de votre livre, Le Moyen-Orient selon Donald Trump, paru aux éditions Éric Bonnier.